le rôle paradoxe et le défi que doivent relever celles et ceux qui pratiquent l'audio description et se chargent de mettre des mots sur les images, comme c'est le cas de notre invité d'aujourd'hui. Héloïse Chouraki, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va beaucoup parler d'audio description au cours de cette émission. Donc, pour citer quelques films sur lesquels tu as travaillé, parmi beaucoup, beaucoup d'autres, on peut citer 120 battements par minute, Sibyl Street pouvait parler, Captain Fantastic, Détroit, Gatsby, le magnifique de Baz Luhrmann, Intouchable, Jackie au Royaume des Filles, Police et plusieurs films de Woody Allen, de François Ozon. Donc, il y a pire, comme c'est vrai. Donc là, on parle d'adaptation d'audiodescription. Tu as également travaillé un petit peu dans le sous-titrage et dans l'adaptation de doublage, quelque chose dont on avait déjà parlé avec notre précédente invitée, pour ceux qui suivent, Maï Boiron, et aussi directrice de plateau. Donc, pour commencer peut-être par le commencement, outre l'audiodescription dont on va beaucoup parler au cours de l'émission, tu pratiques ou tu as pratiqué également le sous-titrage pour sourds et malentendants, ce qu'on appelle le SME. Tout cela est regroupé dans la famille de ce qu'on appelle l'accessibilité, mais d'abord, quand on parle d'accessibilité, de quoi on parle précisément ?
On parle de rendre une œuvre accessible à ceux qui n'y ont pas accès. C'est vraiment tout simple. Au départ, je suis traductrice, je suis adaptatrice. J'ai en réalité beaucoup pratiqué le sous-titrage, la traduction de films, que ce soit en sous-titrage ou en doublage, l'adaptation de programmes audiovisuels. Depuis plus de 20 ans. Donc là, je rendais accessibles des programmes qui n'étaient pas en français aux spectateurs qui ne comprenaient pas la langue. Et je les rendais accessibles donc aux spectateurs francophones. S'il y a une logique, pour moi, c'est toujours de l'accessibilité, d'une façon ou d'une autre. Sauf que quand on dit accessibilité, on parle de personnes en situation de handicap.
D'abord, comment tu avais commencé et comment, dans un deuxième temps, s'est opéré ce virage vers l'AD ?
Alors, j'ai commencé tout simplement, je suis allée en fac de langues étrangères appliquées, parce que c'est ce que je faisais bien et que je ne savais pas trop quel métier je voulais faire. Potentiellement voyager, donc je me disais les langues, le tourisme, etc., ça peut aider. Et puis, dès le premier jour de fac, j'ai trouvé ma voie, parce que mon premier cours était un cours de version. D'accord. Et je me suis éclatée, littéralement, et tout de suite après, je suis allée à la cafette à Sancier. C'était vraiment le premier jour d'étudiante, quoi. Et j'étais là, mais je veux pas traduire des modes d'emploi de grippin. Je veux pas traduire des notices de médicaments, mais je veux traduire ce que j'entends autour de moi, des gros mots, des blagues. Mais je veux traduire des films. Voilà.
Et
ça s'est fait comme ça. Et ensuite, au bout de une dizaine d'années, ça correspondait aussi avec un moment où le sous-titrage, la branche du sous-titrage allait moins bien, alors que quand j'ai démarré, c'était le début du DVD, le début bien du sûr. Câble. Il y avait énormément de travail et toutes les grosses séries qui démarraient en VO et tout. Et ensuite, il y a eu des grosses baisses de tarifs, des mouvements revendicatifs face à ça, etc. Et j'avais envie de pas être... Pardon. J'avais envie de me diversifier. Et j'ai rencontré l'audiodescription. Justement, j'allais à une sorte de convention, un salon sur l'accessibilité, plutôt pour voir où en était le sous-titrage sourd et malentendant, parce que j'avais appris à en faire, j'avais pratiqué un petit peu à mes débuts. Et j'avais l'impression que je me sentirais utile en faisant ça et que ce serait chouette. Et il y a eu une présentation en audiodescription pendant cette journée, et j'ai trouvé ça génialissime. Se mettre à traduire des images après avoir traduit des dialogues pendant 10 ans, il y avait une logique, une fluidité dans ça qui était parfaite. Simplement, à ce moment-là, il n'y avait pas de formation. Il n'y avait que le centre Valentin qui pratiquait l'audiodescription. Je les ai appelés, j'ai demandé, c'était vraiment un truc très fermé, il n'y avait rien à faire. Voilà. Donc pendant plus d'un an, j'ai essayé d'apprendre toute seule, en écoutant des audiodescriptions et en essayant de comprendre comment ça fonctionnait, de décrypter, de m'entraîner. Voilà. Je sentais bien qu'il me manquait des clés, vraiment des outils. Je comprenais ce qu'on essayait d'obtenir, mais il y avait des trucs, je me demandais comment ils faisaient, quoi. J'avais du mal, voilà. Et puis, j'arrêtais pas de dire à tous mes clients, donc, qui étaient déjà des studios d'enregistrement, puisque je faisais du doublage. et de la voice-over aussi, en plus du sous-titrage. Hein, vous allez voir, je suis sûre qu'à un moment, l'audio-description, il va falloir en faire plus. Et vous allez vous y mettre et vous m'appellerez parce que personne ne saura en faire. Et voilà. Et puis, c'est arrivé. Bah, je ne savais pas du tout, quand je suis tombée amoureuse de cette discipline, qu'il y aurait des lois, des quotas.
Et ce que tu dis en creux, c'est qu'effectivement, l'audio-description, l'essor de ça et les gens qui se sont formés pour en faire comme toi, c'est ton cas. Ça correspond aussi à d'abord une prise de conscience sur laquelle on a d'abord averti, pour le dire comme ça, et puis on a fini par légiférer. Donc toi qui travailles là-dedans depuis, on va dire, maintenant une dizaine d'années, est-ce que tu vois aussi peut-être... de la part du grand public et de la part des décideurs comme les chaînes de télévision ou des studios de doublage, une prise de conscience
Tout à fait. Il y a eu plusieurs étapes. Puisque donc j'ai commencé, quand j'ai rencontré l'audiodescription, on ne m'a pas encore parlé des quotas, je n'ai pas entendu parler des lois, même si ça doit être pas loin, juste avant, juste après. Il n'y avait que les anciens, on va dire, qui sont certains très jeunes, mais qui pratiquaient déjà depuis plusieurs années. Voilà. Et là, j'ai commencé. Et après, il y a toute une génération qui est arrivée. Quand j'ai commencé, beaucoup de studios qui m'ont commandé des audiodescriptions n'en avaient jamais fait. Heureusement, mes premières, on m'a associée avec un co-auteur qui, lui, faisait partie, on va dire, des anciens et pratiquait depuis longtemps. Voilà, et qui m'a donné ces clés, ces outils qui me manquaient pour réussir à obtenir le résultat qui était pourtant bien, bien, j'allais dire, visible, audible. Voilà. Ensuite, là, il y a eu plusieurs étapes, parce qu'au début, les studios ont vraiment vu qu'il y avait quelque chose à faire et voulu apprendre et voulu le faire bien. Et ensuite, avec l'augmentation des quotas, pour certains studios, c'est devenu vraiment une façon de remplir. Si tu veux, il y avait beaucoup à produire et ça les arrangeait aussi. C'est vraiment une bonne chose. Simplement, la façon dont chacun s'est organisé a donné, dans certains cas, des résultats catastrophiques à cause d'une production à la chaîne, à cause d'automatisme, à cause de mauvaise compréhension de règles qui ne devraient pas en être en réalité. Il y a des grands principes, il y a des bonnes pratiques, mais on fait du cinéma, ouais. On fait des films, et on ne fait pas des cannes blanches qui ont telle longueur ou des portes pour que les fauteuils roulants passent qui ont telle largeur. Mmh. Oui, c'est de l'accessibilité, oui, mais ce qu'on veut offrir, c'est une expérience. Artistique.
Il y a une partie artistique et créative.
Voilà, et il faut savoir associer. Il faut savoir associer ces contraintes et ces méthodes. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait à la légère, l'audiodescription. Savoir l'associer avec ce constat qu'on est en train de faire du cinéma.
Et ça, ce dont tu parles, c'est quelque chose qui était plutôt vrai il y a plusieurs années, qui a évolué, sur lequel on a davantage un retour d'expérience maintenant.
Le retour d'expérience s'est fait à la dure, puisque face à une baisse de la qualité catastrophique, il y a une levée de boucliers de la part de tout le monde, les spectateurs, les associations de spectateurs, les audiodescripteurs qualifiés, certains clients, certains distributeurs, ceux qui avaient envie de bien faire. Il y a quand même plein de distributeurs qui ont compris que la version audio décrite du film n'est qu'une autre version de leur film, mais c'est une version du film. Et donc, la massacrer, voilà. Et donc, eux aussi ont commencé un petit peu à s'énerver de voir ce qui se passait. Attention, il restait des gens qui faisaient ça admirablement bien, mais ça a poussé le CSA à commander un guide des bonnes pratiques de l'audiodescription. Et c'était un moment assez chouette, puisqu'on s'est retrouvés autour de la table à, je ne sais plus, 10, 20, je ne sais plus combien on était au départ, audiodescripteurs. C'était assez chouette à ce moment-là, puisqu'on s'est retrouvés à plein d'audiodescripteurs, on était peut-être une vingtaine au départ, autour de la table, à l'invitation du CSA, pour rédiger ce guide. Oui, et là, il y avait les anciens, des nouveaux, mais que ceux qui étaient vraiment des défenseurs d'un travail de qualité. Et c'était un travail monumental. Je ne peux pas citer tout le monde.
Non, non.
Tout le monde a bossé, avec les assos aussi, avec le retour, avec l'opinion et les demandes des spectateurs et des associations de spectateurs. Et le résultat est chouette. Et il existe ce guide des bonnes pratiques de l'audiodescription.
C'est, oui, d'accord. C'est une sorte de charte et en tout cas un ensemble de règles qu'il faut observer. Et quand un programme est audiodécrit, c'est de cette charte-là qu'on repart de ces bonnes pratiques.
Oui, c'est vraiment, on ne peut pas dire, il faut faire attention, ce n'est pas un cours, ce n'est pas un cadre dans le sens des règles à suivre. C'est vraiment ce qu'on attend, et ce qu'on attend à tout niveau, puisqu'en plus le CSA, c'était notre demande, puisqu'on a fait ça bénévolement, et c'était un gros boulot, et voilà. Mais de toute façon, on a dit, nous, on veut bien le faire, rédiger ce guide et travailler là-dessus. Mais pour nous, les bonnes pratiques sont pour nous, les bonnes pratiques sont totalement dépendantes des bonnes pratiques professionnelles, des bonnes conditions de travail, y compris les délais, le salaire, les méthodes, le temps qu'on nous donne pour écrire, mais le temps qu'on nous donne en studio pour enregistrer, pour pouvoir jouer. Voilà. Et des choses, avoir la possibilité d'avoir un consultant qui est un professionnel de l'audiodescription et qui est non-voyant, et avec qui on travaille sur la relecture de nos films. Voilà, plein d'étapes. C'est un gros guide, je ne vais pas tout résumer ici, mais il a été envoyé à toutes les chaînes, tous les studios, tous les distributeurs, et on compte sur lui pour changer aussi les choses.
D'accord. Donc toi, après, par rapport à ce que tu disais à l'instant, l'audiodescription, c'est quelque chose dans lequel tu es toi-même devenue formatrice.
Oui. Puisque, absolument.
Forte de ces expériences-là, tu as donc transmis ce que tu savais et tu as commencé à former des gens aussi à ce métier-là. Tu es passé de l'autre côté de la barrière.
Et ça fait partie aussi de l'engagement pour défendre le métier, pour qu'il soit bien pratiqué, pour que les choses soient bien faites, pour que aussi les nouveaux arrivants ne se bradent pas, que les nouveaux audiodescripteurs, quel que soit leur âge, quelle que soit leur expérience, ne pensent pas qu'ils doivent accepter des délais ou des tarifs inadmissibles parce qu'il faut qu'ils prouvent ce qu'ils savent faire. On les forme, on leur apprend à faire du super beau boulot. Et après, ils défendent des pratiques et des conditions de travail. Simplement, je ne donne pas ces formations seules parce que, à nouveau, c'est un métier, donc on n'a pas encore vraiment prononcé ce mot de cette façon-là, mais c'est un métier d'auteur. C'est au-delà d'un statut. On est des individus. Et donc, je trouvais important, on m'a donné carte blanche pour mettre en place cette formation, et puisque justement, elle était nécessaire à ce moment-là. Et je trouvais très important qu'on soit plusieurs formateurs. Il y a au moins 5 intervenants. D'accord. Sur cette formation que je donne. Le but, ce n'est pas de faire des clones, de leur apprendre comment je fais pour qu'ils fassent exactement la même chose. J'essaye un peu de reproduire finalement ce que j'ai vécu, c'est-à-dire pendant une semaine intensive, on ne fait que écouter de l'audiodescription, essayer d'en déduire les fonctionnements, ce qui marche ou pas. Puis après, il y a des ateliers de pratique qui sont étalés pour qu'ils puissent travailler et revenir se confronter à ce qu'ils ont produit. Et ensuite, il y a des ateliers avec d'autres audiodescripteurs. Pour qu'ils puissent devenir eux-mêmes.
Et est-ce que ce métier justement d'auteur et d'autrice de l'audiodescription depuis quelques années, ou en tout cas depuis que tu proposes ces formations, c'est quelque chose qui rencontre un engouement? Ça fait venir beaucoup de candidats et de candidates?
Oui, pas mal. Ouais. C'est pas moi qui m'en occupe, mais il y a une sélection en tout cas à l'entrée. D'accord. Parce qu'on veut des gens qui viennent aussi pour faire ça bien. Pas parce qu'ils ont vu de la lumière, ou pas parce que il y a des quotas, cool, il va y avoir du taf, on va pouvoir, tu vois, qu'il y ait de l'envie, quoi.
Oui, de garder la composante artistique et créative dont on parlait avant, ouais. Que cette flamme-là soit bien vive.
Et puis ça associe le cinéma et l'écriture, et enfin l'image et le son, les mots et les films, l'écriture pure et les films, c'est quand même, ça demande un certain nombre de compétences associées. Avant de pouvoir apprendre à les... Mais il faut avoir un certain nombre de prérequis pour s'y mettre.
Le quatrième mur. L'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir, à 21h, sur Radio Campus Paris.
transition est toute trouvée, puisqu'à l'instant, tu parlais du travail d'auteur en tant que tel. Pour parler de façon un petit peu plus concrète, toi, justement, comment ton travail se passe? C'est-à-dire que on va te solliciter pour que ce soit un film, une série, un projet audiovisuel. À partir de là, toi, comment tu travailles? C'est-à-dire que tu visionnes le film plusieurs fois, il faut que tu le connaisses par cœur, il faut que tu... de façon un petit peu chronologique, comment ça se passe?
Alors, je sais qu'on ne travaille pas tous pareil, mais vraiment, je vous raconte pour moi. J'ai vraiment besoin de... J'ai un premier visionnage, mais j'ai même pas... J'allais te dire une première séance. Je me fais une première séance du film.
La chance.
Vraiment. Il faut que je sois spectatrice. Je veux commencer par vivre une expérience de spectatrice. Et on va dire qu'il y a juste un tout petit enregistreur en moi qui prend juste 2% de moi, tu vois, qui essaye de tout retenir de cette expérience de spectatrice pour pouvoir la reproduire ensuite. Mais ça commence par là. Après, je vais revoir le film, je vais l'écouter aussi. Des fois, je vais le laisser tourner en fond. J'ai beaucoup besoin de m'imprégner du son. Voilà, je vais vivre avec. J'aime beaucoup regarder le film longtemps, le plus longtemps possible avant de commencer à l'écrire. Mm-hmm. Il y a un travail qui se fait aussi interne. Tu sais, ce moment où tu repenses à un film plus tard, mm-hmm. où t'en parles aussi en sortant de la séance avec tes potes, etc. J'ai besoin que tout ça, ça existe avant de commencer à l'écrire. Et après, je rentre dans le dur.
D'accord. Donc justement, pour parler du travail d'auteur, puisque je pense que pour beaucoup de gens, le travail d'un auteur de deux écritures, c'est un petit peu abstrait. Comment tu fonctionnes en fait? C'est-à-dire que tout ce qui est, donc faut se mettre à la place du spectateur qui ne voit pas. Donc en fait, tout ce qui est à l'écran, tu vas devoir l'expliquer, l'expliciter pour que ça fasse écho au dialogue, ça rebondisse,
voilà.
Et que la personne ne loupe rien de l'action du film.
Tu l'as dit avec tes mots, je redis la même chose, mais je redis la même chose avec les miens, juste pour mon travail, c'est de faire des images sans jamais oublier que le spectateur déficient visuel n'a plus que le son. Donc le son, je dois le préserver au maximum. D'accord. Et il y a des endroits où je vais pouvoir quand même m'exprimer, je vais pouvoir parler. Mais je considère toujours que ces espaces dans le film, dans le son du film, ils ne sont pas à moi. Je les vole. D'accord. Je les vole pour faire des images avec mes mots. Le but, c'est de ne pas expliquer. Le but, c'est de ne pas raconter le film.
C'est
de décrire l'image et que cette description de l'image associée au son et au dialogue crée un film sonore pour reproduire cette expérience que j'ai vécue à ma première séance. Voilà. Ça passe partout. J'aime bien donner l'exemple, parfois, tu sais, des petits... il va y avoir dans le son du film un petit... qui va montrer une petite gêne du spectateur. Et parfois, il est très, très, très bas. Mais tu le perçois quand t'écoutes. Et si moi, je parle dessus pour dire « elle se gratte la joue » ou « elle se passe la main sur le visage », qui va être un autre signe de nervosité, je préfère laisser parler le son qui existe déjà plutôt que me mettre à sa place pour décrire une image qui dit la même chose. Faut pas expliquer le film, en plus, quand t'es spectateur et qu'on t'explique un film, tu fais « je suis aveugle, je suis pas con, oui, en fait ». Tu vois. Et puis chacun a envie de le ressentir et de le comprendre à sa façon, un film. Voilà, donc c'est pour ça. Et puis c'est aussi pour pas que ce soit lourd et pour pas étouffer le film.
C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait... le travail d'adaptation, avant de, comment dire, de rendre ta copie, pour le dire comme ça, tu travailles avec des personnes qui sont elles-mêmes déficientes visuelles.
Oui. Donc, il m'arrive aussi de coécrire des films. Donc, au départ, déjà, on est deux auteurs, voyants et auteurs d'audiodescription. Tu me demandais tout à l'heure concrètement, c'est déjà faire de l'audiodescription que de l'écrire. On est déjà en train de la réaliser, puisque chaque chose qu'on veut dire, on va se demander où on va la dire et comment on va la dire pour que ça rentre dans l'espace qu'on peut utiliser. D'accord ? Donc, c'est un métier de contrainte et c'est un métier de frustration. Et là, quand j'écris, je dois être, je dis être dans le film. Donc, j'ai la vidéo en même temps que le texte, avec des repères dans mon texte qui correspondent au son de la vidéo. D'accord. Sinon, il m'arrive aussi d'écrire directement sur une rythmo de doublage. Donc, vous en avez déjà parlé ici. Vous savez de quoi on parle. Et ça peut aussi m'aider. Là, j'écris seul ou à deux, avec beaucoup d'échanges. Ensuite, il y a un moment, une journée qu'on appelle la vérification. Et ou la relecture. Ou voilà. Et à ce moment-là, je vais lire l'intégralité de mon audio description à ma consultante ou à mon consultant, qui sont donc des professionnels de l'audio description. Déficient visuel. C'est pas juste des gens qui pourraient être le public. C'est vraiment un boulot, quoi. On voudrait vraiment que cette étape soit là à chaque fois, et c'est pas toujours le cas. Voilà. Et je lis l'intégralité du film comme si j'étais en studio, finalement, sauf que c'est moi qui suis aux manettes, j'ai pas d'ingé son, on n'enregistre rien, mais je suis devant l'ordinateur, je fais tourner la vidéo et je lis mon texte en place. Et là, ma consultante m'arrête, discute sur un mot. Souvent, tout simplement, on s'arrête et puis elle reformule ce qu'elle a vu pour qu'on vérifie que ce que j'ai décrit correspond. On peut parler de mauvaise formulation parfois, tu vois. On a eu des exemples énormes avec, par exemple, la façon dont j'avais tourné les choses et par rapport au son du film. Donc, il y avait un chien qui attaquait une voiture, enfin, qui sautait, un chien en colère. Un chien enragé qui sautait sur une voiture, etc. Et de la façon, il y avait beaucoup de bazar. Le chien aboyait très fort, les gens qui étaient dans la voiture criaient, s'énervaient, etc. Et on ne comprenait plus qui était dans la voiture et qui était hors de la voiture. D'accord. Donc, qui allait potentiellement se faire mordre ? Qui était courageux, qui ne l'était pas ? Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça. De même que tout simplement, deux personnes qui se parlent, qui s'approchent l'une de l'autre, etc., on entend une claque. Qui a mis la claque, quoi ? Qui fait le bisou, il y a plein de trucs, enfin, tu vois. Et donc, toutes ces choses-là sont testées. Et puis après, il y a aussi des simples... on peut se prendre la tête deux heures, on fait des mimes. Par exemple, je devais décrire cette image où j'avais écrit que quelqu'un mettait sa main au-dessus de ses yeux. D'accord. Et ça ne voulait rien dire, quoi. On ne comprenait pas. Et donc, elle était là. Mais elle fait ça. Alors, elle mettait sur les yeux, sur le front, à plat. Finalement, on a trouvé. Le personnage, il mettait la main en visière pour regarder, tu vois. Mais la main en visière, elle plissait les yeux. Et là, on comprend l'image. Je fais des mimes, hein, en même temps, dans le studio. C'est la limite de la radio. Mais normalement, j'ai bien décrit. Si j'ai dit, elle met la main en visière au-dessus de ses yeux. Et elle met la main en visière et plisse les yeux. À l'autre bout de la plage, il s'avance vers elle.
Il aveugle. Et oui, donc c'est aussi lors de cette étape-là, qui est un petit peu la dernière étape avant que tu rendes ton produit fini, qu'on va, lisser, pour le dire comme ça, ou en tout cas travailler sur, être sûr qu'il n'y ait aucune formule qui puisse être utilisée, qu'on comprenne dans un autre sens que ce qu'elle veut dire, que de laisser aussi aucune ambiguïté.
Ça fait partie du truc. C'est l'ambiguïté, d'éviter toute ambiguïté. Et ça va bien plus loin que ça en réalité. Parce que, oui, bien entendu, il faut que je fasse attention parce que... alors, je vous donne des petits exemples. Moi, je trouve que c'est très parlant. T'as le gars qui est en train de se préparer le matin. T'as un personnage et donc il se lève, il se douche, il se frotte les cheveux avec une serviette, cut... il est en costard et il sort de chez lui et puis il prend sa serviette. Voilà, mais sauf que si tu es dans le guide du routard intergalactique, il ne faut jamais partir sans sa serviette. Parce que c'est ça qui va te sauver la vie dans l'espace. Donc si tu veux, voilà, tu as le gars qui est au bureau et puis il ouvre un tiroir et il sort une chemise bleue. Mais en fait, c'est parce qu'il va se changer. Parce qu'il a toujours des chemises propres pliées dans le tiroir du bas. D'accord ? Donc il y a ces grosses ambiguïtés-là qui sont flagrantes quand je t'en parle. Mais en réalité, chaque phrase, chaque mot doit être instantané et doit s'adresser même pas au spectateur, mais à l'arrière du fond de la tête, du petit coin du cerveau du spectateur. Il ne doit pas savoir qu'on est là. D'accord ? Donc ça doit être direct. Et j'ai un exemple qui marche bien, qui est plus du dialogue, mais qui explique ça en deux secondes, si tu veux, je vous le fais.
Avec grand plaisir.
C'est que si tu entends un enfant dans une cour de récréation qui dit « Ah ouais, de toute façon, moi, mon père, ma mère, la télé, il ne veut pas qu'elle la regarde. » Là, tu sens ton cerveau qui raccroche les mots, Où sont les sujets? Où sont les verbes? Moi, mon père, ma mère, la télé, il veut pas qu'elle la regarde. Qui regarde la télé? Qui veut la regarder? Qui veut pas? Ah! D'accord? Et ça, c'est la langue de tous les jours, en réalité. Et je peux pas faire ça. Je peux pas occuper le cerveau de mon spectateur avec ce genre de réflexion, de raccrocher les wagons. Non seulement ça peut prêter à confusion, mais simplement, parfois, on va me dire « Non, mais c'est bon, il n'y a pas de confusion. » Si tu dis « L'enfant sort de l'immeuble en bermuda rouge », tu sais bien que l'immeuble, il porte pas un bermuda rouge. D'accord ? Oui, il n'y a pas de confusion, mais ça t'a demandé une microseconde pour le savoir. Et cette microseconde, elle n'est pas à moi. Elle est soit au film, soit à toi. Tu vois ?
Puis c'est, oui, d'autant que, étant donné que... Alors ça dépend, mais que ce soit un film ou une série, effectivement, tu peux pas occuper l'esprit de la personne une seconde et demie à chaque ligne de dialogue, puisqu'il faut garder cette espèce d'instantanéité qui fait que la personne ne doit pas être perdue dans le film.
Oui, ça va lui faire soit rater le dialogue d'après, soit le petit bruit, oui. Tu vois, voilà, soit l'émotion. Ce truc de se dire je sais pas moi, ma grand-mère disait ça comme ça aussi, que toi, à laquelle toi t'as droit quand t'es devant le film, pourquoi pas l'autre spectateur avec quel que soit son handicap. Et de même, finalement, même si c'est pour se dire tiens, je vais aller faire pipi à la pub, ça lui appartient. Voilà.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ce dont on parle, je pense que ça dépasse le simple cadre de regarder un film ou une série télévisée. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les interactions sociales même qu'on a, il y a des études qui ont été faites, plein de gens l'ont dit, mais pas, mais il y a ce qui est de l'ordre du verbal et du non-verbal. C'est-à-dire que si là on est en train de parler, si toi tu dis quelque chose où il peut y avoir une ambiguïté, il y a cette espèce de filet de sécurité qui fait qu'en regardant les expressions de ton visage, le ton de ta voix, tout ça, les gestes éventuels que tu fais, j'arrive à raccrocher les wagons. Comme
absolument.
Et là, la difficulté principale, c'est que tu te raccroches à quelque chose qui est uniquement du verbal et de l'auditif.
Tout à fait. Et bien entendu, quand même, on s'appuie parfois sur une situation et on sait bien qu'on est dans un certain cadre et que donc je peux dire un mot et enfin voilà.
Et si c'est un mystère d'une comédie romantique, la personne décode les éléments de contexte d'elle-même.
Absolument. Mais tu as aussi des films où tout l'univers est à inventer ou bien où l'univers est décalé. Tu as parlé de Jackie au Royaume des Filles. Extrêmement complexe.
Même en le voyant avec des yeux, je ne sais pas si j'ai tout compris.
C'est très difficile. Voilà, il y a des mots et alors c'est un univers parallèle, etc. Très, très complexe. On s'en sert souvent en formation pour embêter les stagiaires. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est pour pardon. Effectivement, pouvoir t'appuyer sur le non-verbal, pouvoir t'appuyer sur la situation qui a une certaine logique. C'est vrai. Mais il ne faut pas compter là-dessus non plus. Tu vois, parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Vaut mieux pas réfléchir. Le seul problème que ça pose quand je dis les choses, et si je m'arrête là, et c'est pour ça qu'il faut que je développe un petit peu cette histoire, c'est que ce que ça a, quand on parlait tout à l'heure aussi de l'audiodescription qui avait baissé en qualité beaucoup dans beaucoup de cas, c'était parce qu'à vouloir faire ça, et sans formation, et sans respect, sans compréhension que c'est un travail d'auteur et que c'est du cinéma, ça donnait une simplification de tout. D'accord ? Puisqu'effectivement, la phrase très compliquée que j'ai dite de moi, mon père, ma mère, la télé, alors, ça va, c'est quoi le résultat ? On va vouloir faire des phrases très simples. Sujet, verbe, complément, on va faire des phrases qui s'enchaînent. Pas toujours, si tu veux, à ce point-là, mais oui, des phrases très, très sobres. Très, très sobres. Et avec une compréhension plus simple. Le vocabulaire, on va vouloir qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, etc. On va dire des choses très simples. Mais attention, ça veut pas dire que c'est fadasse, que c'est vide de sens, que c'est plat. Parce que si c'est vide de sens, je me tais et je laisse le film parler. Tu vois ? Donc, la poésie, elle existe quand même. Et le travail d'auteur, il existe, malgré ces techniques qui font que la syntaxe, etc., sont simples. Et ça passe par quoi ? Ça passe justement par... l'univers. Tu parlais, je ne sais plus ce que tu as dit tout à l'heure, mais bon, tu as parlé aussi de Jackie, et voilà, ça m'a fait penser aux questions des couleurs et des, j'allais dire presque des parfums. Un jaune moutarde, il peut être moutarde, il peut être doré, il peut être safran, il peut être, tu vois, il y a plusieurs couleurs qui sont assez proches quand même. Je m'adresse à un déficient visuel, je ne suis pas forcément obligée d'aller regarder sur un nuancier extrêmement précis entre le safran et le moutarde, tu vois. Et franchement, entre nous, on n'est pas loin. Sauf que je décris un univers où il y a des femmes avec des robes moutarde et des robes safran, ben là, t'as de l'épice. T'as du parfum, tu vois. Et ça change tout. C'est presque... La robe, est-ce qu'elle est rose indien ou est-ce qu'elle est fuchsia? Est-ce que tu entends la même chose? Est-ce que tu vois, est-ce que t'es dans la... est-ce que tu vois les mêmes gens? Ouais. Et tu associes ça au prénom du personnage. Mmh. D'accord. On avait travaillé là-dessus avec sur un film qui s'appelle Toi, moi, les autres. Qui est une comédie musicale et que j'avais adoré bosser sur ce film. Il était vraiment, vraiment chouette. Et ça se passe à la Goutte d'Or. Mm-hmm. Moi, je n'ai pas envie de parler de la couleur des gens en permanence. Déjà parce que quand j'ai quelqu'un en face de moi, je ne fais pas attention de quelle couleur il est. Donc, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, est-ce que je dois dire... je décris l'image. Est-ce que la couleur des gens fait partie de ce que je vois? Ouais.
Très bonne question. D'ordre métaphysique, j'allais dire, mais en tout cas...
Eh, d'accord, oui. Est-ce que j'avais envie, sur un film qui se passe à la Goutte d'Or, de préciser, alors lui, c'est celui qui est marron foncé, lui, c'est celle qui est plutôt s'attire vers, tu vois?
Oui, bien sûr.
Non. Par contre, les gens, ils ont des prénoms, et ils ont des tenues, et tu leur associes des couleurs avec des mots qui correspondent à leur caractère ethnique, j'ai envie de dire, physique, etc. Et tu arrives à créer des personnages entiers, sans être lourdingue et sans en plus présumer de quel pays vient la personne alors que j'en sais rien, leur coller des étiquettes.
Mmh, bien sûr. Tout à l'heure, je parlais d'un neuroparadoxe et c'est vrai que le paradoxe originel, pour le dire comme ça, de la description, c'est que le cinéma, c'est un art total. La difficulté peut-être, en tout cas le challenge pour une autrice comme toi, c'est de finalement devoir véhiculer beaucoup de choses de façon littéraire pour un art qui est finalement par essence visuel.
Absolument. Et ça rend fou. Mais j'adore.
Par exemple, pour prendre l'exemple concret de choses sur lesquelles tu as travaillé, je pense des films comme par exemple Gatsby le Magnifique ou les films de Baz Luhrmann, de Jean-Pierre Jeunet, même Jackie au Royaume des Filles dont tu parlais, qui a un univers visuel très fort. Là, c'est des cinéastes qui ont une vraie patte, qui ont un style visuel qui est indissociable de leur, qui encapsule leur style. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Jean-Pierre Jeunet. Tu peux regarder n'importe quel film de Jean-Pierre Jeunet par rapport. Tu parlais du jaune moutarde par rapport à la teinte de vert qu'il utilise par rapport à la teinte de jaune. Tu sais que c'est lui. Pareil.
Oui.
Baz Luhrmann, Gatsby magnifique. C'était un truc totalement fou, dantesque, qui était projeté en 3D. Et ça, donc, comment tu peux le traduire, ou en tout cas l'induire, uniquement par la force des mots?
Alors, il y a un équilibre à trouver entre la frustration et l'effort. avant toute chose, faire confiance au film, et faire confiance au cinéaste, et faire confiance au son du film. Parce que si tous les films que tu as cités, d'accord, écoute-les sans l'image, mm-hmm. et tu verras qu'ils ont leur identité déjà. Par leur musique, par la nature du son lui-même. Apprendre à écouter les films, c'est le début de notre travail aussi. Avant c'est difficile finalement, c'est qu'on doit décrire les images et qu'on ne peut pas s'y mettre avant de savoir écouter le film. Et ça demande... Réellement, les stagiaires en formation sentent à un moment de la formation des connexions qui se font dans leur cerveau qu'ils ne connaissaient pas avant. Hein. Voilà, ça relie les points. Dans ce cadre-là, si tu permets, je vais prendre l'exemple d'un autre cinéaste parce que j'ai fait plusieurs de ses films et donc c'est plus facile pour moi de faire le lien là. C'est Woody Allen et son amour du doré depuis qu'il a fait Minuit à Paris. Donc il y a toutes ces histoires de ses choix de chef opérateur.
Les films de lui sur lesquels tu avais travaillé, il y avait notamment Un jour de pluie à New York.
Oui.
C'était surtout ces films récents.
Oui, je crois que c'est Minuit à Paris le premier. Passe du gris au doré, si tu veux. Et donc, tu as une côte américaine où il fait beau, hein, où on fait du film et où tout est doré. Et ou pas, si tu veux, mais t'as toujours deux mondes. Et c'est ça. Et donc, attends, ça y est, j'ai perdu le titre, tu l'as dit tout à l'heure. Il y en a un où il y a le personnage qui part justement à Hollywood et puis il est New-Yorkais. Oh, le
Café Society.
Oui, merci. C'est... Ah là là, j'étais perdue. Voilà. Et c'est sur Café Society, si tu veux, où il a son univers, où tout est gris, oui. Tout est minéral. Et quand il est à Hollywood, tout est doré, orange, etc. Tu ne vas pas répéter doré 1000 fois. Mmh. Et en même temps, c'est là, c'est la patte du chef-op et du réal. Ils en font des tonnes avec ça, quoi. Mmh. Tu regardes des images, il a la cravate assortie au papier peint et tout. Et donc, tu dois quand même citer tout ça. Et ça va se... Et en plus, à la fin du film, tu as le coucher de... t'as le lever de soleil doré sur les ponts de New York gris, enfin tu vois, ça continue jusqu'au bout quoi. Et ça t'arrive à l'induire, mais ce que j'aime c'est que ça se sente le moins possible, que ce soit un peu fin si possible quoi, un peu subtil. Et voilà, au bout du troisième, quatrième film, des fois je râle un peu, je fais eh, doré, on y va, on change, on fait du rose la prochaine fois, je sais pas quoi.
Couture, c'est ça la limite.
Mais non, mais j'adore. Mais tu vois, mais tout ça pour te dire que c'est pas le plus dur finalement, parce que les réalisateurs, ils ont leurs pattes dans tout.
Mmh. Oui, et puis c'est vrai que toi, surtout quand c'est des cinéastes dont tu adaptes plusieurs films à la suite, tu deviens aussi assez, comme tu disais à l'instant, familière de leur style, et tu es, comment dire, de t'adapter à ça. Enfin, je parlais d'exemple, on prenait l'exemple de François Ozon, et c'est aussi là qu'il y a un vrai travail d'auteur, un vrai travail artistique. Tu sais que tu vas pas adapter un film de Woody Allen comme un film de François Ozon, parce que c'est pas la même ambiance, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas le même rythme.
Absolument. Et ça va changer de toute façon d'un film à l'autre, même si on connaît pas le réalisateur. Mais tu sais, c'est exercice de style. Mmh. Tu connais l'histoire avec le mec qui monte dans l'autobus, et puis il y a un type avec un chapeau et il se fait marcher sur le pied. Enfin, j'ai oublié toute l'histoire, mais tu peux raconter la même histoire à la façon d'eux et de plein de façons différentes. Et c'est un boulot d'adaptateur. C'est là qu'on est, si tu veux, que ça se rapproche de faire parler des personnages en se mettant dans la peau de chacun des personnages quand je faisais des dialogues. Sauf que là, bah, je vais me mettre dans la peau du film, dans la peau de l'image du film. Ça va passer aussi par plein de choses de registres, tu vois. Parce que bien entendu que si dans le film, il y a une fille qui dit « je me suis acheté une villa » et que quand elle y va, je dis « elle arrive devant une maison ». C'est pas le même endroit. Parce que la villa, c'est la villa. Donc, elle a créé une villa avec son dialogue, ou moi, j'ai créé une villa quand j'en ai parlé. Il faut que ce soit le même endroit. D'accord ? Donc, ça, c'est tout simple. Au-delà de ça, tu as les mots qu'on va utiliser pour rappeler les choses, le vocabulaire qui doit s'associer dans le film, etc. Et puis, peut-être un film historique, tu vas employer un vocabulaire plus désuet. Mmh. Et j'avais bossé sur un film qui s'appelait Les Caïra. Et je ne disais pas Les Trois Messieurs... s'avance sur le bitume. Hein. Je disais les trois mecs marchent sur le parking, tu vois. Et dans le phrasé aussi, j'aime bien soit quand c'est moi qui dis les films, soit dans mon choix de voix, de comédien, avoir des gens. Il y a des gens qui ont un phrasé qui marche bien sur certains films ou pas.
Le quatrième mur. L'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir à 21h sur Radio Campus Paris.
Comme tu disais à l'instant, donc tu es aussi directrice artistique, c'est directrice de plateau, donc c'est un métier dont on avait déjà parlé avec Barbara Tissier. Quelle est la différence principale entre l'enregistrement de voix pour le doublage et pour l'audiodescription? C'est qu'on sera dans un registre beaucoup moins joué, beaucoup moins théâtral.
Ah oui, alors je ne fais pas du tout le même boulot, j'admire énormément son travail. Alors, et donc, mais non, mais c'est vrai, ça s'appelle pareil, sauf que je suis directrice artistique ou directrice de plateau d'audiodescription, tu vois. Les directeurs de plateau et de doublage ont un travail en amont d'abord de casting, avec des tonnes de voix qui doivent associer à des personnages. Chose dont je serais bien incapable, d'avoir toutes ces voix et tous ces noms dans la tête et de faire ces associations. Après, il y a le travail du jeu. Et là, par contre, donc, moi aussi, je vais faire un casting, je vais choisir une voix, soit parce que ça va être la mienne qui va être sélectionnée par le client, mais en audiodescription, j'aurai une ou deux voix. Voilà. Et avant, il arrivait qu'on fasse automatiquement deux voix, hommes et femmes, pour alterner entre les scènes. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas pour plusieurs raisons, mais ça peut encore servir. Aussi, ça, j'adore le faire quand, par exemple, tu as deux époques. Mmh. Un film qui est construit sur des flashbacks, c'est sympa d'avoir une voix pour une époque, une voix pour l'autre, ça aide à se repérer dans le film. Voilà. Mmh. Les films aussi qui sont très chargés en AD, où il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, où il y a beaucoup de textes d'audiodescription, ça va être moins lassant. Si tu peux alterner entre deux voix, ça peut être plus confortable aussi. Il faut qu'il y ait une raison, ce n'est pas pour rien. Et ensuite, vraiment, on va faire après appel à d'autres voix s'il y en a besoin. Par exemple, s'il y a des sous-titres à lire, puisqu'ils ne vont pas être lus par le spectateur, donc on va devoir les leur lire en voice-over. Et là, on peut avoir besoin de faire intervenir d'autres voix pour faire les voix de ces personnages. Voilà. Donc ça, c'est dans le choix des voix. Et ensuite, dans l'instant, si je me suis mise à diriger des plateaux, c'est juste parce que c'est tellement lié. La façon dont on écrit par rapport à la façon dont on joue. Et aussi, il y avait des mauvaises habitudes qui étaient en train d'être prises en enregistrement qui me rendaient dingue. Parce que, tu sais, c'est un peu comme l'éthique des journalistes qui vont se mettre à tous parler pareil à un moment. Et là, c'est le drame. Oui. Tu vois ? Et bien, on avait pareil en audiodescription, puisque les gens qui connaissaient pas et qui ont appris sur le tas parce qu'il y avait énormément de demandes et qu'il fallait s'y coller et qu'ils n'ont pas cherché plus loin, on va dire, ou pas eu l'occasion, ou mal compris, il y avait le mot neutralité. Que normalement, je n'ai pas encore prononcé depuis le début de l'interview parce que je suis contre. Non. On doit être, l'audiodescription, elle doit être discrète. Elle doit se faire oublier parce qu'elle ne doit pas faire réfléchir, parce qu'elle ne doit pas supplanter le film. Voilà. Mais la neutralité, c'est quoi ? Ça ne veut rien dire. Hein. Voilà. C'est le truc où tu es tout noir, mais si tu es sur un fond blanc, tu es plus neutre. C'est le marionnettiste habillé en noir, mais en fait, le décor, c'est une jungle verte. On ne voit que lui. Donc, le marionnettiste discret, il est en vert. Il n'est pas en noir si le fond, c'est la jungle. D'accord ? Donc, c'est ça le concept, si tu veux. Sauf qu'avec ces mots de neutralité, là, ça a donné un ton. C'était insupportable, qui empêche même de comprendre le sens. Et si tu en as écouté quelques-unes des mauvaises, t'entends, alors c'est le personnage, elle regarde par la fenêtre, elle se dirige vers la cuisine, elle boit un verre d'eau, elle revient vers la fenêtre, elle l'ouvre. Et alors moi j'aime bien tout de suite, là je coupe et je fais, elle saute. Parce que c'est toujours déprimant quoi. C'est horrible. Et surtout, tu comprends rien, parce que là, j'ai donné des actions très simples. Oui. Mais en plus, je rigolais, donc c'est mieux que ce qu'on pourrait... Je ne peux pas m'empêcher de le faire en marrant, donc c'est encore un peu plus supportable que ce qu'on entend parfois. Mais donc, ce truc neutre, si tu veux, ne fonctionne pas. Et il faut jouer. Mais il faut jouer discrètement. En fait, c'est assez dur. C'est très fin. C'est mettre vraiment du sens, comprendre ce qu'on dit, comprendre ce qu'est en train de vivre le personnage qu'on décrit. Et au-delà de ça, l'accompagner dans son émotion. Ouais. Je peux faire un dernier exemple ou t'en as marre ?
Tous les exemples.
Parce que, donc, on a compris qu'on manque de place.
Oui.
Ok. Si je te dis, elle monte l'escalier très lentement et sur le palier...
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Elle
tu
ne
peux pas le dire d'une voix tonique comme ça.
À quelle vitesse a-t-elle monté cet escalier ? D'accord ?
Ouais.
Alors que si je te dis... Elle monte l'escalier et sur le palier, et là, t'as compris qu'elle n'avait pas speedé, quoi, qu'elle était tranquille. Voilà, et j'ai pas besoin de te le dire, et c'est instinctif. Et donc, moi, j'ai envie de pas l'écrire très lentement. OK ? Mais si, une fois en studio, je suis pas là, et on dit, elle monte l'escalier et sur le palier, et ben là, ça ne marche à nouveau pas. D'accord ? Donc, tout est lié, de même qu'il y a plein d'actions où je vais pouvoir expliquer avec mes mots. Mais je trouve ça mieux. Un regard. Un personnage qui regarde un autre personnage. Il peut y avoir mille façons. Un personnage qui prend l'autre par le bras ou qui lui met la main sur l'épaule. Ça peut être de la violence comme la plus grande douceur. Ça peut être maternel. Ça peut, tu vois ? Le regard, si je te dis « elle le regarde », si je te dis « elle le regarde », elle le regarde ? Et... Tu vois, et c'est tellement mieux que de dire « elle le regarde tendrement ». En plus, ce serait neutre. Donc, ce serait « elle le regarde tendrement ». Elle le regarde avec colère. Elle lui envoie un regard interrogatif. Non.
Oui, donc c'est aussi pour ça que le jeu, même s'il est un peu moins, on va dire, souligné ou affecté que quand c'est du doublage ou dans un registre de jeu plus, un peu plus marqué, il faut qu'il soit présent, puisque comme tu dis, c'est indissociable de toute façon.
C'est un jeu de narrateur. C'est un jeu de narrateur et pas un jeu de personnage. Et justement, à aucun moment, la voix d'audiodescription ne doit être prise pour un personnage du film. Ouais. Là, on brouille les cartes. On est comme si c'est comme à côté. Ouais. On n'est pas dans le film. On n'est pas au-dessus du film. Mm-hmm. On n'est pas sous le film qu'on t'entend pas, t'es vertu, tu ne sers à rien, tu vois. On est à côté. Ouais. On est posé là et on aide. C'est l'ambassadeur, c'est l'interprète.
Alors, pour parler d'autres activités que tu fais, tu as écrit également des contes pour enfants et tu as notamment signé une adaptation théâtrale pas du tout classique du Vilain Petit Canard avec l'acteur Arnaud Valois qui est connu pour son rôle dans 120 battements par minute. Cette expérience avait-elle vu le jour ?
Eh bien, Arnaud, que je connaissais déjà et m'a parlé de son projet avec Étienne Dao. Il souhaitait faire ensemble un projet pour enfants musical, parce qu'Étienne avait beaucoup aimé la voix d'Arnaud et rêvait d'avoir ce genre de projet.
C'était après 120 battements par minute ?
Et c'était après, ouais.
D'accord. Et Arnaud Valois, tu le connaissais d'avance ?
Oui, je connaissais Arnaud Valois depuis plus longtemps.
Comme je disais au début de l'émission, c'est aussi toi qui avais signé l'audiodescription, donc je me demandais si c'était lié.
Et alors non, enfin, c'est la première audiodescription où j'ai demandé à la faire, parce que j'avais déjà audiodécrit un autre film de Robin Campillo, et Eastern Boys. Très beau film d'ailleurs, enfin très fort. Quand Arnaud a passé le casting pour 120 battements par minute, j'étais surexcitée parce que j'avais adoré le film Eastern Boys. Et puis bon, j'ai suivi toute l'aventure avec lui et j'avais très envie de décrire le film. J'ai pas eu à supplier beaucoup. Heureusement, c'était chouette, ça m'avait fait plaisir. C'était un chouette boulot aussi à faire, ce film très 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 difficile. En même temps, je suis pas trop vieille, mais je suis pas toute jeune, donc c'était une époque que j'ai bien connue, donc je pouvais le faire. Si tu veux, on peut aussi parler un petit peu, se faire un petit. Il y a un truc, il y a des choses à dire sur ce film, et parce que c'est aussi global sur l'audio description, oser regarder et oser dire. Parenthèse, mais on peut en discuter deux minutes, c'est très important dans notre métier. Attends, parce que je perds le fil, on était sur le Vilain Petit Canard. D'accord, on y reviendra après.
Pas de souci, on va faire cette parenthèse.
Ok. C'est un bon exemple, 120 battements. Pour moi, l'audiodescription, une des choses les plus fortes, c'est de regarder les films. Quand tu es spectateur d'un film, parfois, tu sais, tu vas sortir un peu. Il va y avoir une scène qui est trop dure pour toi ou qui te rappelle des choses, même si elle n'est pas dure en violence ou en, tu vois, tu es libre de la façon dont tu prends le film. En tant qu'audiodescripteur, on ne l'est pas. On doit voir, on doit oser regarder et après, on doit oser dire. Et c'est très important. C'est très important quand tu fais Eastern Boys et qu'il y a des scènes d'amour et de sexe homosexuel, d'accord ? Comment sont-elles tournées ? Et je n'ai pas à avoir d'a priori à aucun niveau, puisque justement, la caractéristique de ces scènes, c'est qu'elles sont tournées, pour ce film-là, y a des scènes plus ou moins tendres, etc. Mais Robin Campillo ne filme pas deux hommes qui font l'amour en disant « Attention, hein, c'est deux hommes !» en le soulignant. C'est juste des scènes d'amour ou des scènes de sexe, si tu veux, sans... Tu vois, c'est important de le dire. C'est important de le dire. Comment tu dis « Il ne fait pas comme font les autres ?» Tu vois, eh ben, y a qu'une seule façon, c'est en décrivant l'image. Et de même que si je disais à chaque fois qu'il y a une scène d'amour ou de sexe « Ils font l'amour !» À chaque fois que deux personnes se battent, ils se battent. On s'emmerderait à mourir d'abord, mais surtout on comprendrait rien. Parce qu'une bagarre, tu peux avoir une bagarre, d'abord qui gagne, puis ils se battent comme des professionnels, où ils se battent comme des gens qui ne se sont jamais battus en se tapant là et en agitant, en se donnant des petites gifles et en se tirant les cheveux. Et puis qui gagne. Et puis qui est vicieux pendant la bagarre et qui ne l'est pas. Et puis tu vois, et l'amour c'est pareil. Tu regardes une scène d'amour, t'en as qui vont te mettre mal à l'aise. T'en as qui vont te donner des petits frissons. T'en as qui vont te chauffer grave. Et moi ce que je veux c'est reproduire cette expérience. Et pour ça je dois oser regarder et je dois oser dire. Et dans 120 battements, c'est pareil, il y a des choses très dures, il y a des choses très belles, et c'est un film hyper fort. Et reproduire tout ça, c'était pas rien, mais il faut aussi faire confiance au film, parce que là, typiquement, le son de ce film est magique. Et te porte.
Tu parlais de cette époque-là qu'il avait fallu recréer, la musique de l'époque, notamment la musique de club, puisque ça tourne beaucoup autour de ça, le film est capital. Quoi.
Et c'est des battements du cœur. Et donc, ça accompagne tout le film. Et si t'es pas dans un respect de ça, c'est comme si un film, à chaque fois, si tu veux, c'était l'instru. Mmh. Et puis, ben, nous, on est les paroles. Ouais. Tu vois ? Ouais. Tu vas pas te mettre n'importe où dans cette affaire. Voilà, donc, je reviens.
Je veux bien croire quand tu disais que c'était une belle expérience, même pour, par rapport à Arnaud Allant, puisque lui, avant ça, il avait fait quelques rôles assez mineurs, mais c'est surtout ce film-là qu'il a propulsé. Après le film, il est aux Oscars, c'était le début d'une belle carrière, donc ça,
ouais.
C'était très, très émouvant. Et pour revenir au
film, merci. Puisque, tu m'aides à garder le fil. Ouais.
Avant ce très bel aparté, c'est. Oui, donc tu disais, c'est un projet qu'il avait commencé à développer avec Étienne Dao.
Il voulait faire un conte musical pour enfants. Ils ont été bercés par des Pierre et le Loup et tout ça. Et ils avaient envie de faire ça ensemble. Ils s'étaient rencontrés sur un clip d'Étienne. Et ils voulaient travailler tous les deux. Et ça allait, ils étaient tombés là-dessus comme idée de projet. Et on parle avec Arnaud parce que, dans une conversation de quel conte sera le bon. Et donc, il semblait évident que c'était Le Vilain Petit Canard. Il n'y en a pas 12 000. D'abord parce qu'on en a marre des messages à la... des contes de princesses, et, tu vois. Et voilà. Et puis parce que ce conte est universel et génial.
C'est l'éloge de la différence et et de l'altérité.
Ça leur allait bien. Et puis devenir la meilleure version de soi-même. Enfin, il y a quand même plein de trucs à faire avec ce conte.
Là, en l'occurrence, c'est un conte qui était joué. Les représentations, c'était au théâtre, c'est ça ?
C'est un livre audio au D'accord. départ. C'est un disque, c'est un vinyle. T'imagines un peu la classe. Ouais, c'est bien. C'est même moi qui ai la première presse, ils me l'ont offert. Mais donc, c'est un disque, c'est un livre CD. On peut aussi l'écouter, tu sais, sur les plateformes et compagnie. Voilà, ça se voulait vraiment audio au départ, mais Gallimard l'a sorti en livre et a associé notre travail avec celui d'Olivier Talec, qui est un illustrateur très très chouette. Et donc là, ça fait encore un autre univers. L'univers du livre avec des dessins plus enfantins d'Olivier Talec, c'est une chose. Et l'univers du spectacle qui a été joué à la Cité de la Musique la Philharmonie, ça s'appelle, oui. Et puis après, il y a eu une tournée, etc. C'est pas exactement le même univers. C'est la même musique et le même texte, à peu de choses près sur le texte. Et après, l'univers est différent. Il est un peu plus dark quand même dans le spectacle. Voilà. Et c'était super, en tout cas, comme projet. Et moi, c'est toujours de l'adaptation. Mais un autre type d'adaptation, puisqu'une fois qu'on avait choisi le conte, j'étais trop excitée, j'arrêtais pas de leur envoyer des bouts de texte. Ils m'ont dit, bon, vas-y, bosse là, parce que tu vas nous saouler sinon pendant tout le projet. Après, ils ont fait, mais c'est pas exactement quand même le même conte. Je dis, non, mais c'est la même histoire, on a dit, c'est l'histoire. Je dis, vous voulez vraiment un truc qui dit à la fin qu'il est heureux parce qu'il est blanc ? On va vraiment faire ça ? Non, on va pas faire ça.
On arrive malheureusement au terme de l'émission, c'est une heure qui est passée très vite, tu as beaucoup de choses à dire et c'est passionnant. Alors on arrive à la dernière question, la dernière étape de l'émission, la question sempiternelle, traditionnelle et proverbiale que je pose à chacun et chacune de mes invités. Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle, pour le dire comme ça, qui te tient particulièrement à cœur, que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs aujourd'hui ?
Alors, une recommandation culturelle, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, ouais, mais une œuvre. Voilà. J'en ai qu'une qui me vient là tout de suite. Mais en fait, c'est parce qu'il y en a mille, tu sais. Mais il y en a une qui marche pour moi, c'est une chanson. Mmh. bon, d'abord parce que la musique, les chansons, c'est important pour moi. Et puis celle-ci est aussi forte d'un point de vue personnel et chacun peut... C'est une chanson de Nina Simone qui s'appelle « I wish I knew how it would feel to be free ». Et je pense que chacun y trouvera à tout niveau en ce moment, d'autant plus de quoi... Voilà.
Alors moi,
et voilà, elle m'a beaucoup, elle m'accompagne beaucoup. Elle, non, j'exagère pas si je dis qu'elle m'a sauvé la vie, carrément. Et puis c'est planétaire, quoi.
Très bien. Et bah voilà, on recommande à tous ceux qui nous écoutent de l'écouter. Très très belle chanson. Nina Simone a fait énormément de belles chansons et ça, c'en est une parmi ses meilleures. Héloïse, merci beaucoup pour cette heure passée à tes côtés où tu nous auras fait découvrir comment, ce qu'est l'audiodescription, comment ça fonctionne, le travail des auteurs et des autrices là-dedans. Et merci beaucoup pour ce que tu nous auras fait découvrir. Et peut-être que, comme tu disais, ça fera naître des vocations.
Il faut quand même peut-être préciser aussi, puis je ne sais pas s'il y en a qui veulent devenir audiodescripteurs, que donc on a un statut d'auteur. C'est un statut particulier à croire que nous ne sommes que... Alors, c'est formidable, tu peux dire je vide ma plume, tu vois, c'est super. L'audiodescription, il y a quand même à la fois cet engouement actuel avec les quotas, il y a un boom, il y a du travail, il y a des belles choses à faire et tout ça. Mais pour nous, c'est aussi du boulot de défendre ça, que ça reste du travail d'orfèvre, voilà, pas du travail à la chaîne. Dans ce cadre-là, on est aussi en train de... se battre, on va dire, pour toucher nos droits de diffusion. D'accord. Et parce que, alors que c'est la loi, normalement, que quand une œuvre est diffusée, on touche des droits d'auteur, qui sont versés par la SACEM ou une autre société. Pour l'instant, personne ne s'occupe de nous. Donc, il n'y a pas de société de redistribution de droits qui s'en occupe. Donc, ça fait partie des grosses actions qui sont menées en ce moment et qui vont permettre aussi que les prochains audiodescripteurs puissent vivre de ce métier. Puisque, comme tu l'as dit, je fais plusieurs métiers. Ça me permet aussi de ne pas accepter n'importe quoi et de mettre la bonne casquette au bon moment. Voilà.
Tu as raison, c'est important de préciser. Merci beaucoup.